Aujourd'hui dans nos studios, Shadow Remington est venu nous présenter ses nouvelles compositions, un électro empreint d'influence world music, pour vous embarquer dans de folles nuits de trance, de danse et d'évasion. Salut Florian.
Salut, comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Nickel.
Ça fait du bien de te retrouver ici et puis dans d'autres circonstances que lorsque l'on s'est connu il y a quelques années maintenant.
Carrément, ça fait plaisir de revenir ici dans ce cadre-là,
ouais.
D'être de l'autre côté finalement.
D'être de l'autre côté, oui. Et de voir aussi que tu as progressé, tu as décidé de faire de la musique ton métier et puis voilà.
Ouais, bah clairement c'est l'objectif, toujours avec passion, sans faire de compromis pour y arriver plus rapidement. Voilà, j'essaie de rester le plus sincère dans ma démarche, voilà, toujours garder de l'émotion dans mes morceaux et toujours me renouveler aussi.
Ouais.
Et voilà, c'est un peu ce qui me guide, ouais, le renouvellement, mélanger un peu toutes les influences sans m'enfermer dans un style particulier. Là, pour le coup, on a écouté de la psytrance, ça reste mon style un peu de prédilection, on va dire. Mais j'essaie toujours d'y apporter des influences différentes. Et aussi un peu de hard music qui arrive et voilà, j'essaie un peu de tout mélanger, rester hybride et voilà.
Ce qui fait ton style à toi d'ailleurs.
C'est ça, je pense que ce qui me définit le plus finalement c'est la mélodie, où peu importe dans quel style je vais vraiment garder de la mélodie, parce que pour moi c'est ce qui est le plus important. Après, peut-être que c'est parce que je suis musicien à la base.
C'est ce que j'allais dire.
Je pense. Mais j'arrive quand même à apprécier les morceaux moins mélodiques, mais ça me touche un peu moins, on va dire. Mais donc voilà, j'essaie de garder ça et puis garder aussi mon passé de rocker un peu.
Et à quel moment justement tu t'es dit tiens, les instruments acoustiques ou en tout cas tu t'es dit que tu allais passer vraiment à la musique électronique?
Bah ça s'est fait tout naturellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc étant batteur, j'étais dans des groupes de musique, rock ou musique actuelle. Et toujours, bah, on était limité aux répétitions. Et donc 2 heures, allez, 4 heures maximum par semaine, c'est quand même. Bah, ça limite un peu
C'est frustrant quelque part.
Ouais, c'est ça, c'est frustrant parce que on a beau travailler seul de son côté, on peut pas vraiment faire avancer le collectif, tandis qu'avec la musique électronique, en étant en bossant seul, on peut passer 50 heures dans la semaine à bosser sur du son. Enfin, y a aucune limite, quoi. Et puis il y a ce côté aussi où voilà, dans la production, pareil, il n'y a aucune limite. On peut mélanger tout ce qu'on veut, on peut vraiment créer. Enfin, les possibilités sont infinies. On peut même voilà, retrouver des sons qu'on ne peut pas avoir en acoustique. On peut tout moduler, on peut remixer, on peut vraiment faire de tout. Et c'est vraiment. Plus un bac à sable que juste jouer de la musique.
C'est plus un moment de liberté. Enfin, il y a plus de liberté pour toi, en tout
C'est
cas.
ça, en fait, contrairement à l'acoustique, il y a ce côté expérimentation, où vraiment on peut passer bah, des heures à travailler juste sur la sonorité que va avoir un élément voilà, en travaillant avec les oscillateurs. Et vraiment, on peut plonger au cœur même du son, et ça, je trouve ça impressionnant, même c'est tout bête, mais de voir des fois avec des ce qu'on appelle des visualiseurs
Oui.
pour voir le son bah, avec le temps, c'est juste avec les fréquences pouvoir se dire ok, ben bah, là en fait, à telle fréquence, je sais que c'est telle note qui fait tel pic. C'est vraiment toute une autre facette du son
Oui.
et je trouve ça passionnant.
Oui, mais je sens cette passion t'animer justement et ces moments de création, tu les fais tout seul ou alors est-ce que c'est durant les sets que tu animes
Eh
les
ben,
deux?
il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il va soit y avoir des. Effectivement, ouais, des moments avec les sets où là, ça va plus être sur le côté remix ou mash-up, ce qui consiste à mélanger plusieurs morceaux ensemble sans y ajouter vraiment un truc à soi, mais
Ouais,
juste voilà, les mélanger, quoi. Tout bêtement, ça va être prendre la rythmique, enfin prendre un morceau qui n'a pas de voix, par exemple, et y ajouter l'a cappella d'un autre morceau. Et donc ouais, ça va être surtout pendant les sets où on va se dire punaise, il y a tel DJ qui a joué ce classique avant moi, j'aimerais bien le rentrer dans mes sets, mais à ma sauce. Et à ce moment-là, ben voilà, soit je vais travailler sur un mashup, soit sur un remix. Après, pour mes morceaux, va y avoir je dirais trois façons différentes un peu. Soit je vais ça va être quelque chose qui va être assez spontané, ou en rentrant je sais pas, je vais aller me balader ou passer un moment avec mes amis, et après ça, soit avoir l'inspiration qui vient comme ça, soit des fois des mélodies comme ça qui viennent toutes seules en tête, et il y a ce moment un peu challengeant où il y a quelque chose un peu qui commence à s'orchestrer en tête, et il faut vite réussir à le reproduire
Ouais.
sur l'ordi avant qu'on perde le truc, quoi. Et sinon, après, il y a aussi avec quand je travaille avec des gens où du coup là, des fois c'est au début ça peut être un peu compliqué parce que faut trouver directement spontanément l'inspiration quoi. Parce que quand on va voir quelqu'un dans une autre ville ou quoi, on est des fois on peut être limité en temps. Et donc là, ça va plus partir de l'échange où il y en a un, il va faire une piste, l'autre, il va faire une autre piste, et du coup, on va se nourrir
Oui.
mutuellement en inspiration. Et sinon, après, la troisième façon, je dirais, c'est par comment dire, le matériel qu'on a, ou quand je parle de matériel, ça peut être aussi des samples ou des synthés virtuels qu'on va télécharger. Et parce que par exemple, du coup, dans la production, quelque chose qui se fait beaucoup, c'est les packs de samples, où ça va être des gens, ils vont faire des packs avec regroupant plein de sons. Ça peut être des sons de cymbales, des petits enregistrements de mélodies à la guitare, n'importe quoi. Qui vont donc proposer gratuitement ou pas, mais qui pourront être utilisés librement par les personnes qui le téléchargeront. Et ça, souvent, ça peut être une bonne source d'inspiration. On va trouver un petit air de guitare qu'on aime bien, et puis on va essayer de broder un peu autour de ça, ou alors partir d'un synthé, tout bêtement, et puis chercher des presets, des trucs qui sont
Ouais.
sympas,
Des
les
arrangements,
ouais
des...
voilà les moduler un peu des fois et voilà plus l'expérimentation. Et après des fois il y a aussi tout ça qui se mélange où je peux commencer un morceau qui où je vais avoir une inspi sur le moment et puis je vais me dire tiens en fait j'y verrais bien cet élément que j'ai commencé à travailler sur un autre projet et du coup des fois il y a un peu certains
Des
projets qui se
croisements.
mélangent ouais.
Et du coup, là, tu es venu au studio avec sur ta clé USB 9 morceaux. Donc, on va pas tous les écouter aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, les auditeurs, vous allez les retrouver dans la programmation d'Antenne Doc bientôt. Et du coup, comment là, ils vont être produits, enfin, ils vont sortir sous un label. Enfin, là, ça devient sérieux, là.
Ouais, du coup, j'ai commencé. Je sais plus, ça doit être en 2016, je crois que j'avais signé mon premier morceau sur un label où je commençais encore. Et à ce moment-là, vraiment, il y avait encore ce truc où les labels, c'était le gros truc, il fallait signer sur un label. Maintenant, il y a beaucoup plus ce côté indépendant qui prend de l'ampleur. Et donc, j'avais signé sur un label qui était éclaté. Vraiment, c'était une arnaque totale où il disait OK, il faut envoyer un mastering, mais il faut payer le mastering. Sauf qu'en fait, c'est juste un faux label qui sert à faire de l'argent sur les masterings qui étaient en fait, c'était eux aussi qui géraient ça. Bref, du coup, il y a quelques années qui se sont passées sans trop que je signe sur label parce que ça a été un peu la désillusion, on va dire, parce que j'avais pas du tout le niveau en fait. Et je crois que ça doit être en 2019, je sais plus. J'ai signé sur un label qui était Psy France Records, ou label français, du coup, que j'apprécie beaucoup. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans ce label. Je suis devenu manager, on l'a renommé en tant que Freestyle Record. Et du coup, maintenant, la plupart de mes morceaux, je les sors sur mon propre label. Mais il y en a d'autres, des fois, que je signe sur d'autres labels parce que ça va peut-être plus coller à leur image ou tout bêtement, ça va être le label d'un artiste que j'apprécie. Et voilà, petit rêve de gosse,
Oui.
envie de signer sur ce label.
Du
Et
coup, il y a
voilà.
combien d'artistes pour l'instant sur ce label, tu sais?
Alors là, on a fêté donc le premier anniversaire hier et on a dû faire une vingtaine de sorties avec quand même quelques artistes qui ont sorti plusieurs morceaux. Donc je pense qu'on a une bonne dizaine d'artistes qui ont signé des morceaux sur leur label,
Sur ce
sur
label.
ce label. Et à côté de ça, du coup, parce qu'en fait, Freestyle Record est rattaché Art Style France et Hardcore France, que sont deux autres labels plus là implantés dans le milieu hard music. Et derrière ces trois labels, du coup, il y a une agence de booking qui a été créée, qui s'appelle HF Agency. Et donc, il y a certains artistes des trois labels qui sont également signés dans l'agence, là, en tant qu'artistes, et qui sont donc bookés sur des soirées.
Ok. J'imagine qu'on peut retrouver ces artistes. Il doit y avoir un site internet qui regroupe ouais, tous ces artistes.
Il y a du coup Freestyle Records sur tous les réseaux, ouais. Instagram, okay. Facebook, SoundCloud, YouTube. Et pareil pour Hardcore France et Artstyle France, du coup. Et parmi les artistes, on a par exemple Creeds, qui était du coup l'ancien manager de Freestyle Records. Et qui est en train de sortir de très bons morceaux sur de gros labels avec Hélène K, du coup une chanteuse française, et du coup ils sont en train de ramener un peu le français dans l'art music, parce que du coup dans l'art music il y a un style qui est le Frenchcore, qui à la base est français. Et voilà, il est en train de ramener un peu voilà,
ce. Oui, c'est ce vrai côté que c'est assez impressionnant, tous ces termes, tous ces styles différents qui se regroupent tout autour de la musique électronique. Et il y en a, mais à foison.
Il y en a une flopée. Ben, il y a, disons, des grands courants. Mais c'est comme ça va être comme dans le rock ou dans le hip-hop. Voilà, il y a des grands courants. Et puis ensuite, dès qu'il y a. Un élément récurrent dans le morceau qui revient, ça va créer un sous-genre. Et bah, par exemple, souvent dans le milieu hard music et psy-trance qui est un sous-genre de la trance en soi qui existe ouais. depuis
très longtemps,
je pense, à peu près. Bah, ça va surtout être au niveau du kick, la grosse caisse et de la basse qui donc selon les sonorités et le tempo aussi souvent qu'il va y avoir dans le morceau, ça va être un peu l'indice on va dire du style que ça va être. Mais donc ouais, en ce moment là avec Freestyle Records et les autres labels, il y a ça bouge pas mal en
ça
France
foisonne.
et même sans être voilà, sans vouloir parler juste de nos labels, globalement en France en ce moment ça bouge beaucoup,
ça bouge
au niveau
beaucoup.
De la musique électronique, ouais.
Ben justement, tu vas peut-être nous parler du prochain titre que l'on va écouter.
Ouais.
Vidaloka,
c'est le troisième morceau de mon EP appelé Rebirth. Que j'ai sorti du coup le 31 mai sur Freestyle Records. C'est un morceau du coup psy-trance, enfin on va dire qu'il y a une influence psy-trance, mais dans les faits ça se rapproche un peu d'un style tout nouveau qui est la Dirty Rave, qui est arrivé du coup avec des artistes qui ont signé sur Freestyle Records et qui ont lancé leur propre label Dirty Rave. Et donc c'est un style un peu hybride où voilà, ça mélange les styles et la frontière entre... Alors celui-là garde quand même un côté très psy-trance, mais voilà, le principe de la Dirty Rave, c'est de mélanger un peu les styles hard, la psy-trance et même tout ce qui va être acid-core, acid-techno, des styles un peu plus underground. Et voilà, de mélanger le truc avec des choses qu'on n'entend pas souvent. Et voilà, et là, c'est avec des petites guitares, un peu en mode summer vibe.
Eh bien, on écoute.
Thank you.
Ouais, ça donne envie d'aller se lâcher dans les boîtes de nuit, ça. Hein,
c'est le but.
C'est le but. dis-moi justement comment c'est possible de défendre, comment on arrive à défendre les titres comme ça justement dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu les envoies un peu partout? Comment ça se passe concrètement?
Dans les boîtes, c'est disons que c'est un peu compliqué. Ce qui va se faire dans le milieu plus mainstream, on va dire, c'est que souvent les artistes vont envoyer leurs morceaux à des DJ résidents dans des boîtes ou quoi pour qu'ils soient joués dans les boîtes. Dans la musique underground, c'est un peu différent parce que c'est quand même rare. En fait, dans le milieu underground, il y a très peu de boîtes avec vraiment des DJ résidents qui ont mixé de l'underground. Ça va être plus des associations ou des labels, peu importe leur forme, des orgas qui vont organiser des soirées dans des boîtes en invitant du coup des DJ qui souvent produisent. Et du coup, on va plus envoyer les morceaux à des DJ dans nos styles qui sont qui joueront potentiellement les morceaux, mais du coup ça va être ça va plus se retrouver sur sur les boîtes, sur les festivals. En fait, il y a pas trop de ça va surtout être sur les gros festivals où va y avoir un intérêt.
Disons que c'est plus facile, d'après ce que je comprends, de au label d'organiser peut-être des soirées spéciales label avec toutes sortes.
C'est ça, voilà. C'est ça. En fait, le truc, c'est que sur les soirées plus mainstream, ce qui va se faire en général, c'est que il y aura le DJ résident qui d'habitude va faire un 23h-6h. Là, il va faire un 23h, 2h. Et de 2h à 4h, par exemple, va y avoir un guest qui va venir, DJ invité, qui va venir mixer. Sauf que du coup, sur les soirées underground, on va reprendre plus le principe des festivals où on va prendre plusieurs DJ pour vraiment proposer une vraie programmation.
Et une vraie diversité aussi de ce qui se fait.
Exactement. Souvent qui va être progressif. Et du coup, en France, en tout cas, ça va surtout se faire comme ça. Après l'été, il y a quand même des gros festivals, mais comment dire, il n'y a pas la portée. Il n'y a pas ce côté marketing ou commercial dans le sens...
C'est difficile de connaître le nom. Alors, je ne sais pas, je suis plus dans le milieu depuis très longtemps, donc je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il est difficile de donner un nom au DJ, au compositeur de musique électro, qu'à un artiste pop-rock, par exemple. Les noms sont moins identifiés, il me semble.
En fait, ça dépend, parce que du coup, le milieu est mélangé, parce qu'il y a vraiment les DJ et les DJ producteurs. Et même à côté, il y a des producteurs tout court, d'ailleurs. Mais les DJ vont avoir du mal à se faire connaître. En général, ça va être très local, ils vont être résidents dans une boîte, par exemple, ou vont tourner sur des soirées, et ils vont avoir leur communauté locale. Et pour pouvoir commencer à bouger, il faut vraiment produire. Après, ça va aussi se faire... En fait, tout se fait sur les réseaux, globalement. Parce que si on prend... je sais pas, je pourrais citer des Bilix ou Dr. Peacock dans les gros un peu de l'underground, psytrance, art de musique, tout ça. Mais là, vraiment, ils se font connaître sur les réseaux, sur les festivals. En fait, c'est ça, en France, ça va surtout être au niveau des festivals comme l'Insane Festival, le Delta, Garo Rock, les Vieilles Charrues, bien qu'ils soient quand même un peu moins ouverts à la musique électronique que les autres. Mais voilà, ça va surtout se jouer sur les gros festivals. Alors qu'à l'étranger, ça va être très différent. Par exemple, Bah, si on prend un gros festival comme Tomorrowland, bah, voilà, si un DJ est joué par un gros DJ qui joue sur la scène principale de Tomorrowland, là, de suite, ça va être beaucoup d'exposition d'un coup. Mais même ça, ça reste plus fermé parce que bah, Tomorrowland, voilà, il va y avoir les grosses têtes d'affiche un peu mainstream ou bah, si on est joué par un grand DJ mainstream, il va y avoir bah, ça va donner en popularité. Mais dans l'underground, ouais, ça va vraiment être faire plein de soirées et sortir beaucoup de morceaux et bombarder la com sur les réseaux.
Et du coup, alors toi, tes titres, est-ce qu'on peut les écouter, donc hormis sur Antenne, j'espère, qu'on peut les écouter ailleurs
Ouais, bah, partout sur Internet, que ce soit sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Ils sont sur Amazon,
Shadow et Remington.
Disponibles à la vente. Sur le site de Underground Techno, qui est notre distributeur, qui permet du coup de sortir sur toutes ces plateformes. Et voilà, il se retrouve un peu partout.
Vous tapez Shadow Remington et on tombe dessus.
Exactement, n'importe où.
Alors moi, j'aimerais bien que tu me parles aussi d'une collaboration que tu as faite avec une chanteuse, oui. Donc un titre qui n'est pas encore sorti.
Exactement.
Et qui va bientôt voir le jour.
Effectivement, bah, du coup, c'est Summer Vibes en featuring avec Just In, son nom d'artiste. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux, c'est just.in. Et donc, on s'était rencontrés bah, justement à Figeac il y a quelques années sur un concours Jeunes Talents organisé par Télé Figeac. Donc moi, à l'époque, c'était, bah, je le faisais en tant que producteur, elle en tant que chanteuse. Et on n'avait pas forcément gardé contact ou quoi à ce moment-là, mais on s'est recroisés bah, quelques années plus tard. J'avais ce morceau où je voulais à tout prix qu'elle ait une voix dessus, et elle collait parfaitement à ça. Donc on a discuté, ça a mis du temps à se faire parce qu'elle était en études à Paris, donc très peu d'occasions ensemble pour bosser dessus. Mais de fil en aiguille, ça s'est fait. On a travaillé ensemble sur les paroles, comment on le posait dessus. Et au final, on l'a enregistré. Et enfin, il est masterisé. Plus qu'à boucler le clip. Et on compte sortir ça courant de l'été. Et voilà, ça sortira sur un label mexicain.
Mexicain.
Et ça sera dispo, pareil, sur toutes les plateformes.
Alors, un style un peu différent du tien, hein. Enfin, de celui que tu nous proposes, en tout cas.
Effectivement, bah, du coup, là, ça, c'est vraiment dans la continuité de mon EP Rebirth, parce que depuis quelques années déjà, du coup, je produis principalement de la psytrance, mais sur les soirées, j'ai quand même une tendance plus hard qui arrive. Mais toujours en mélangeant un peu le tout. Et donc le Rebirth, c'était un peu la concrétisation de bah, quatre morceaux sur lesquels je bloquais un peu depuis des années. Et je voulais à tout prix bah, sortir un EP que psytrance avant d'arriver sur des trucs plus hard. Et donc là, ce feat avec Justine, c'est un peu ce qui arrive derrière. Un peu moins underground que l'EP, vraiment là on est vraiment sur quelque chose quasiment pop et voilà, c'est un peu pour conclure en beauté entre guillemets cette aventure psytrance, et là je vais me diriger sur des morceaux un peu plus hard mais aussi plus hybride, essayer d'y ramener plus ma touche rock. Et voilà, essayer de faire quelque chose qui se rapproche plus de ce que je fais en live, finalement.
Oui, de ce qui te représente aujourd'hui aussi, peut-être.
C'est ça. Ben, en fait, y a, après, je pense que beaucoup de producteurs connaissent ça. On a tous plusieurs facettes. Où, voilà, y a...
Et évolution aussi.
C'est ça. Mais même voilà, quand je suis en live, moi, c'est... C'est pas pour trier les lentilles, j'arrive, j'aime faire des trucs dynamiques et sauter partout. Et des fois, bah, quand je suis chez moi et que je compose, je vais être dans un délire plus introspectif, plus profond, machin, et ça va être ça va certes donner un bon morceau, mais pas forcément un morceau que j'irai passer en live. Je pense le meilleur exemple de ça, c'est l'Optimisme du Chaos, que j'ai sorti il y a quelque temps, qui est un morceau vraiment très calme, avec un vocal de Noman Nosny, tiré d'une conférence TEDx, un peu développement personnel qu'il avait fait, où il parlait justement de l'optimisme du chaos, dans le sens où il considère un peu que le chaos dans le monde évolue, enfin que ça grandit, quoi, mais qu'il faut quand même rester optimiste, et que c'est du chaos connaissent les bonnes choses finalement, et que tout se rééquilibre. Donc pas forcément le morceau le plus joyeux, mais donc voilà, j'ai laissé vraiment une grosse part à son discours, et c'est un morceau clairement qui s'écoute uniquement chez soi et en soirée, à moins de vouloir faire déprimer tout le public, c'est pas ce que j'irais passer, quoi.
En tout cas, je vous invite les auditeurs et les auditrices à vous connecter sur les réseaux sociaux, et voilà, et taper Shadow Remington, vous allez écouter toutes sortes de titres et de morceaux, et nous on va se quitter avec le duo avec Justin.
C'est parti.
À bientôt.
À bientôt. Encore merci.
The breezes of the rise.